Avant d'engager cette discussion, je voudrais vous parler de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Cette loi a été votée en première lecture et au Sénat, François Fortassin, et à l'Assemblée nationale. Et donc il y a eu là beaucoup d'amendements qui ont été déposés par nos parlementaires afin que le département soit toujours reconnu comme un service indispensable de proximité en direction de nos concitoyens. Ça, vous le savez, nous avons eu des avis tellement divergents au cours de cette dernière année. Le président de la République qui nous disait en janvier 2014 qu'il fallait conserver le département. Ensuite, M. Valls à la tribune de l'Assemblée nationale nous disant qu'il fallait supprimer le département. Et puis après, se rendant compte que ce n'était plus tellement possible, on va conserver le département pour les territoires ruraux et de montagne, 49, 50, nous disait-on. Et aujourd'hui, ce sont toutes les assemblées départementales qui vont être renouvelées. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux que ça ait été dans ce sens. Mais comprenez, nous faisons tous ensemble du porte-à-porte, nous rencontrons beaucoup de nos concitoyens et ils nous posent la question, mais c'est quoi le Conseil Général demain? Alors le Conseil Général demain, je vais vous redire ce que sont les compétences en première lecture, je suis à peu près persuadée qu'elles ne bougeront pas beaucoup en deuxième lecture et qu'on peut presque les considérer comme définitives. Mais avouez quand même que de nous demander, nous, de se présenter devant vous, pour être demain les conseillers généraux, les conseillers départementaux, puisque ce sera notre titre, alors que nous ne connaissons pas les compétences, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le gouvernement avait toute possibilité que de fixer la date des élections lorsque cette loi aurait été votée. Et ce aurait été plus simple pour tous, me semble-t-il. Il en est ainsi. Donc, je vais vous rappeler ce que nous dit notre Assemblée nationale et notre Sénat. Alors, la loi NOTRe, que nous reste-t-il ici au niveau du département? Eh bien, il nous reste l'action sociale, comme avant. Pas de changement. L'action sociale, c'est beaucoup d'argent. C'est presque 50% du budget du Conseil général. Et puis, l'action sociale, ça commence dès la petite enfance, avec les vaccinations, la PMI, et après les centres de loisirs, l'aide sociale à l'enfance, mais encore le RMI-RSA, pour ceux qui sont dans une grande précarité, mais également les fonds précarité, mais également le FSL, et puis pour aller ensuite au niveau de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, que ce soit en établissement ou que ce soit à domicile, et puis bien sûr les EHPAD, anciennes maisons de retraite. Tout ça, c'est une action très importante. Et nous avons environ 500 salariés dans ce département qui travaillent au quotidien sur nos territoires pour aider toutes ces familles. Et c'est ça l'action sociale. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait actuellement sur la vallée des Gaves, sur le nouveau canton. Et bien sur le nouveau canton, c'est 661 personnes qui perçoivent l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Sur ce canton, le Conseil général, en 4 ans de temps, a financé 14 266 000 euros. 14 266 000 euros auxquels il faut ajouter les 60 millions d'écrus. Et là, à cet instant, j'ai envie d'avoir une pensée particulière pour le président Pellieu. Et si nous sommes là, ici ce soir, cette équipe, c'est parce que nous avons décidé ensemble que pour que le département puisse avancer, pour que le département puisse aller de l'avant, il fallait absolument, absolument que nous gardions le président Pellieu. Nous lui devons tellement sur cette vallée, au niveau des crues. Regardez ce qui s'est passé encore sur Saint-Béat. Saint-Béat, c'est toujours pas réparé. Moi, je vous rappelle que la crue a eu lieu le 18 juin 2013, que le Tour de France arrivait en juillet, et que tout était réparé au niveau des axes. Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre aurait été en capacité ainsi de mener? J'ai la faiblesse de croire que non. Nous avons eu d'autres présidents de Conseil Général. Nous avons eu avant une présidente qui nous avait promis le très haut débit pour tous. Bien, force est de constater que 4 ans après, on est très, 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 très loin d'avoir le très haut débit. Donc, quand on est un homme ou une femme politique, on se doit de toujours, toujours dire la vérité. Et ce que je vous dis à l'instant, c'est l'engagement que je prends avec toute notre équipe. Ça, c'est très important. Alors, je vous disais que nous garderions l'action sociale. Je vous disais aussi que nous allons garder les routes. Eh bien, on est drôlement content de garder les routes. Jeanine Dubié s'est bataillée sur cet amendement-là. Alors, certaines routes devraient être de compétence régionale. Alors, peut-être que Claude Guette, vice-président du Conseil régional, pourra nous en parler tout à l'heure. Ce qu'on ne sait pas, c'est lesquelles. Si c'est simplement pour nous aider au financement, on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes de compétence régionale. Mais on veut garder la maîtrise. La maîtrise du déneigement, la maîtrise des réparations, la maîtrise que... on puisse rouler et que les liens entre nos différents villages soient bons et qu'on ait le moins en moins de virages possible pour que, bien ma foi, il puisse y avoir des routes qui ne soient pas accidentogènes. Alors nous garderons les routes, nous en sommes contents. Nous en sommes d'autant plus contents que, vous le savez, notre grande région, maintenant, elle fait Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Alors si le problème des routes et du déneigement se passait au niveau de la décision à Montpellier, j'ai bien peur qu'on n'ait pas le même centimètre de neige qu'ici dans nos montagnes. Donc j'ose espérer, encore une fois, que les compétences régionales seront simplement pour le financement, monsieur le président. Alors, ensuite, nous garderions les collèges. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure Anne-Marie. Les collèges, c'est d'importance, ici, dans nos secteurs de montagne. Notre petit collège de Pierrefitte, il a une nécessité absolue pour les jeunes de nos vallées, pour les jeunes de nos vallées qui habitent à Gavarnie, à Gèvres, voire plus loin dans l'ensemble du secteur. C'est un tout petit collège de 100 élèves. Celui de Luce. C'est un petit collège de 100 élèves. Mais quelle compétence, quelle qualité d'enseignement, quelle qualité de vie aussi. Alors le Conseil Général a décidé, puisque vous le savez que le Conseil Général en charge les bâtiments, mais également les personnels d'entretien, les personnels techniques, bien le Conseil Général a décidé de continuer encore et encore son investissement pour ce collège. Et cette année, c'est le seul service que nous avons fait, mais chaque année, et le président a tenu à aller avec monsieur l'inspecteur, le président Pellieu, a tenu à aller avec l'inspecteur d'académie afin de lui dire combien nous souhaitions garder ce collège de proximité. Alors certes, il a maintenant, avec celui de Pierrefitte, une direction partagée, mais peu importe, il y a une sous-directrice, ou je ne sais pas si on appelle ça une sous-principale, principale adjointe, qui est pleine de qualité et qui fait que tout ça se passe très bien. L'important, ce sont nos jeunes. Alors nous gardons les collèges, nous sommes contents. Mais figurez-vous que je ne sais pas qui a décidé, dans un bureau de je ne sais pas où, 7e, 17e, je ne sais pas où, qu'on ne garderait plus les transports scolaires. Alors, on garde les collèges, on ne garde pas les transports scolaires. Alors, dites-moi où il y a la cohérence. Alors, on ne garde pas les transports scolaires, ils pourraient être délégués au département, mais on ne garde pas les transports scolaires. Et notre plus grande interrogation à nous, eh bien, c'est de se dire tous nos autocaristes qui ont travaillé bien, qui connaissent toutes nos communes, qui connaissent tous les circuits, seront-ils en capacité demain de répondre aux appels d'offres qui seront lancés par la très grande région, qui sera celle de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon? Est-ce que dans de telles circonstances, ils pourront répondre aux Keolis et compagnie? C'est ça notre interrogation aujourd'hui. Nous en avons parlé à nos parlementaires et nous espérons qu'en deuxième lecture, ils pourront améliorer ça. Alors, le Conseil régional aurait également tout ce qui est transport, il avait déjà le rail, ça marche pas si mal que ça. Il aurait les routes et les aéroports. Alors écoutez, j'espère qu'il aura la même envie qu'a eu le Conseil général des Hautes-Pyrénées de conserver notre aéroport en complémentarité avec celui de Pau, parce que notre aéroport est indispensable au développement économique de notre territoire. Alors, nous y veillerons, mais comment? Ce sont mes interrogations. Et puis ensuite, en ce qui concerne le développement économique, il sera de compétence exclusive du Conseil régional, mais j'avais posé la question à Martin Malvy d'une réunion où était d'ailleurs Claude Guette, et il avait dit « nous serons prescriptifs », c'est-à-dire que c'est eux qui détermineront les grandes lignes à financer au niveau du développement économique. Mais aujourd'hui, que deviendra notre CDDE? C'est des tas d'interrogations. Et nous pensons, nous, que quand on est le plus près des entreprises, Nous avons plus de chances de les comprendre, nous avons plus de chances de les aider, nous avons plus de compétences pour faire des tours de table aux banquiers, et nous regrettons un peu que cette compétence qui est tellement nécessaire pour notre économie, eh bien, nous échappe un peu. Nous garderions le SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, donc voilà, et serait en compétence partagée le tourisme, quoique, le tourisme, et par contre les communautés de communes reprendraient l'eau et l'assainissement, et l'organisation régionale des déchets. Eh bien, bon courage. Voilà, bon courage. Je ne suis pas sûre que les communautés de communes soient prêtes à prendre l'eau et l'assainissement. Mais cependant, c'est la loi, elles le prendront, elles s'organiseront, mais ça va provoquer quand même un très grand changement. Donc vous le voyez, entre ce que fait le Conseil Général aujourd'hui, ce qu'il va faire demain, il n'y a pas tellement de bouleversements. Alors pourquoi avoir fait toutes ces peurs, avoir créé toutes ces peurs pour arriver presque aujourd'hui à un même équilibre? C'est dommage, et on comprend que nos concitoyens aujourd'hui se posent des interrogations. Franchement, on peut le comprendre. Alors tout à l'heure, Anne-Marie vous a dit que notre département, comme vous, mesdames et messieurs les maires qui êtes dans la salle, vous avez perdu des dotations de l'État au cours de ces dernières années, pour ce qui nous concerne 13,2 millions d'euros. C'est pas une paille, 13,2 millions d'euros. Et la loi de finances pour les deux années à venir, eh bien, nous annonce encore des baisses de dotations. Il faut donc être plus inventif. Il faut donc essayer de nous rassembler pour que nos projets puissent toujours exister avec des compétences que nous pourrions nous approprier ensemble. Et c'est la démarche du projet de territoire. Parce que François Fortassin aurait dit, il va sûrement le dire tout à l'heure, aujourd'hui, les économies que l'on a fait, eh bien, on est arrivé à l'os. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller au-delà. On a fait toutes les économies possibles et inimaginables au niveau du fonctionnement, mais on ne pourra plus rien faire d'autre en la matière. C'est à cet instant que le président Pélieu a donc lancé ce fameux projet de territoire. Alors c'est quoi le projet de territoire? Philippe et Anne-Marie vous l'ont expliqué. C'est tout simplement se dire que nous soyons de droite, de gauche, du centre. Nous habitons tous un territoire. Et sur ce territoire, nous voulons le faire avancer. Nous voulons le faire se développer. Et si nous voulons le faire avancer et se développer, c'est pour qu'il ait demain plus de richesses. Et plus de richesses, c'est quoi? C'est tout simplement plus d'emplois. Plus d'emplois pour tous ceux qui sont déjà en chômage dans notre département, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Il nous faut travailler ensemble. Donc une démarche participative a été mise en place. Il y a eu de très nombreux ateliers qui se sont déroulés sur l'ensemble de notre département. Il y en a eu à Lourdes, à Argelès, il y en a eu à Vic, il y en a eu à Lannesan, il y en a eu partout. Et toutes les forces vives y étaient invitées, aussi bien en ce qui concerne les universitaires, les chefs d'entreprise, que les gens qui sont dans les associations, que les trois chambres consulaires dont Philippe vous a parlé tout à l'heure. Et puis, après avoir fait cet inventaire, on s'est dit, que peut-on faire pour développer ce département? Et on est parti sur 12 chantiers. Chaque chantier est totalement différent. Il est co-animé par des gens de la société civile, par des industriels, par des tas de personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et donc, dans ce cadre-là, chacun part sur des actions. Ces actions, le projet de territoire, c'est à horizon 2020-2030. Mais n'empêche que ce que nous souhaitons, c'est des actions concrètes dès cette année. Alors je vais vous en parler d'une qui nous concerne tous, c'est la santé. Est-ce que la santé, c'est de la compétence du Conseil Général? Non. La santé, c'est de la compétence de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Cependant, j'estime que c'est aussi de la compétence du Conseil Général si on parle de solidarité territoriale. Parce que si demain, dans nos vallées, on n'a plus de médecins, ce qui arrive déjà dans le Val d'Azun depuis 2 ans, si sur un canton entier, on n'a plus de médecins, si dans nos vallées, on veut faire venir des touristes, eh bien, il est évident qu'il faut que nous ayons une organisation de santé. À partir de ça, cet atelier qui est présidé par Nicole Dariotor, qui est médecin à Bagnères-de-Bigorre, elle a convoqué, avec Janine Dubier d'ailleurs, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières, Et puis, ils ont essayé d'examiner ensemble ce qu'était l'âge de nos médecins généralistes et de combien allaient partir à la retraite dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans à venir. On est parti sur 4 ans. On s'est rendu compte, je vais vous parler de ce qui se passe ici, bien sûr, je pourrais vous parler de ce qui se passe sur l'ensemble du département, mais nous sommes sur la vallée des Gaves. Nous nous sommes rendus compte que bien nos médecins généralistes ont beaucoup de compétences au niveau médical, mais ils ne pensent pas forcément à leur succession quand ils partent à la retraite. Ici, à Argelès, 2 médecins viennent de partir à la retraite. Là, c'est en dernier, en janvier. Je vous l'ai dit, dans le Val d'Azun, il n'y en a plus. À Cotteret, il n'y en a plus que 2. Enfin, il y en a 3, un qui part à la retraite. Sur Luz, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons besoin de ces médecins généralistes, non seulement pour nous, pour le touriste, mais aussi pour les thermes. Nous avons absolument besoin de médecins généralistes pour nos thermes. À partir de ce constat, nous nous sommes rendus compte que nos médecins généralistes, ici, dans notre département en général, n'étaient pas des médecins tuteurs. C'est quoi un médecin tuteur? C'est un médecin qui accueille les internes en dernière année de stage et qui leur permet ainsi de découvrir le territoire, la clientèle, et qui leur permettent ainsi de s'adapter au territoire. Et comme notre territoire, je suis sûre que vous en êtes tous convaincus, puisque vous êtes tous habitants de la vallée des Gaves, puisque nous avons à cœur ce territoire, puisque nous le portons, puisque nous savons combien il est fait bon vivre, et bien lorsque ce jeune interne découvrira notre territoire, il ne pourra qu'y rester. Mais pour ça, il nous fallait des médecins tuteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médecin tuteur? Et bien, c'est un médecin qui, en plus, bien sûr, de toutes ses compétences médicales, a fait des stages au niveau de la faculté de médecine de Toulouse qui lui permettent d'accueillir en dernière année un interne. À la suite de ce constat, nous avons donc réuni, quand je dis nous, c'est le projet de territoire. Nous avons donc fait appel au professeur Oustrick, qui est professeur à la faculté de médecine de Toulouse et qui a en charge justement les dernières années, les internes de dernière année. Nous avons réuni les médecins de notre département et j'ai le plaisir, il a expliqué bien sûr, et j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que c'est maintenant 8 médecins qui se sont inscrits dans ce tutorat, donc 2 sur notre territoire. Voilà ce qui est au démarrage le projet de territoire dans le cadre de cette compétence. Et puis cette compétence, elle ne s'est pas arrêtée là, parce que nous nous sommes rendus compte que pour accueillir des jeunes internes, il faut leur permettre d'avoir du logement. Ils sont là pour une année. Ce n'est pas toujours facile dans nos vallées d'avoir des logements. Vous le savez très bien, très souvent, on ne l'a même pas pour nos saisonniers. Parce que le logement en résidence secondaire, la semaine, coûte très cher et nous manquons de résidence principale. Donc, il faut trouver un engagement sur chacun de ces lieux pour que les communes ou les communautés de communes demain puissent recevoir ces jeunes internes qui sont actuellement, qui seraient donc avec le médecin tuteur. Et puis je dois dire qu'il nous faut remercier et féliciter le canton d'Aucun, et puisque nous avons la chance d'avoir son conseiller général Marc Léo, et qui a beaucoup œuvré sur la chose, il me plaît de le remercier et de le féliciter, puisqu'il a commencé à créer le premier pôle santé, qui va démarrer au 1er juillet, nous avons maintenant un médecin. Alors c'est quoi un pôle santé? C'est tout simplement un médecin généraliste avec un cabinet d'infirmières, avec podologue, enfin avec bien sûr la pharmacie, avec toutes ces professions de médecine associées qui permettront également d'avoir des consultations de dentiste, des consultations d'ophtalmo. Voilà. Et ce médecin, il ne peut pas fonctionner tout seul parce que nos jeunes internes aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler comme les médecins d'hier, c'est-à-dire, et on les comprend, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, ils veulent profiter de leur famille, ils veulent avoir également des congés, alors que certains sont aux 35 heures, pour beaucoup d'entre eux sont aux 35 heures, et il est tout à fait normal qu'eux aussi aient des loisirs. Donc, il faut travailler en équipe. Et lorsqu'un médecin arrive dans un lieu comme le nôtre, dans nos secteurs de montagne, c'est la première des choses qu'il demande. Est-ce qu'il existe une maison de santé? Alors, l'organisation pourrait se faire, nous y travaillons avec l'ARS, une maison cantonale de la santé qui se situerait à Argelès, à Zafos, ou peu importe, avec plusieurs médecins généralistes mais également avec toutes les autres professions de santé. Et puis trois pôles, celui de Luz, celui de Cotteret, celui du Val d'Azun. Ce qui fait qu'en travaillant ensemble avec la même informatique, eh bien, lorsque le médecin d'Aucun ou celui de Luz partira en vacances, il aura, au niveau informatique, il saura exactement les traitements qui ont été donnés aux patients. Il saura exactement tous les examens médicaux qu'ils auront passés. Et donc, c'est dans la complémentarité qu'ils pourront bien évidemment travailler. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la DSL, pour nous, enfin le très haut débit, pour nous, c'était un rêve. Quand je dis pour nous, excusez-moi, je veux dire dans le Val d'Azun, c'était un rêve, ça n'existait pas. Donc le président Pellieu a d'abord commencé au niveau de la DSL à équiper toutes les stations de ski. Parce que c'était indispensable. Si nos stations de ski n'ont pas le très haut débit, comment voulez-vous que cela puisse fonctionner, non seulement au niveau des machines, mais également au niveau des réservations, etc. etc. Donc, le Val d'Azun aura son très haut débit à compter de la fin de ce premier semestre 2015, ce qui permettra, bien évidemment, de travailler ensuite par télémédecine. Et c'est ça l'important, travailler au niveau informatique et travailler par télémédecine. Et travailler par télémédecine, pas simplement les médecins entre eux, mais avec nos hôpitaux. Voilà ce qu'est le projet de territoire. Alors, est-ce que c'était de la compétence de la Chambre d'agriculture? Ben ça, vous allez me dire, ben sûrement pas. Est-ce que c'était de la compétence de la Chambre d'industrie? Ah ben, sûrement pas. Est-ce que c'était de la compétence du Grand Tarbes ou de la ville de Tarbes? Ah ben, pas plus. Et cependant, qu'est-ce que c'est le projet de territoire? C'est justement tous ensemble. Je vous ai dit de droite, de gauche, du centre. J'aurais dû vous dire aussi, mais Philippe l'avait dit avant moi, c'est l'agglomération du Grand Tarbes, c'est la ville de Tarbes, avec... vous le savez bien, des étiquettes politiques totalement différentes, mais c'est aussi les trois chambres consulaires, mais c'est aussi les trois grandes agglomérations et bien sûr le Conseil général. Le Conseil général a initié cette façon de travailler. Mais aujourd'hui, ce projet de territoire porté par l'association Ambition Pyrénées, aujourd'hui, ce projet de territoire, c'est le projet de tous. C'est donc votre projet de développement pour les années à venir. Parce que je crois, moi, il faut être plus inventif quand on a moins d'argent. Et on est bien plus intelligent quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Je pars de ce principe. Et j'ai envie de vous dire également, au niveau de ce projet de territoire, que cette façon de fonctionner, me semble-t-il, qui est une façon particulièrement intéressante, puisque nous mettons en commun des projets déterminés ensemble, nos moyens, et bien cette façon de fonctionner, a été mise en place au démarrage par le président Pellieu. C'est la raison pour laquelle, vous le comprendrez, si demain notre équipe est élue, elle soutiendra la candidature du président Pellieu à la présidence du Conseil général.